Jésus. Bon, Sophie, j'espère que tu n'as pas décroché. Les mots-clés sont Messie, Fils de Dieu, Salut et Royaume de Dieu. Au début, tout cela avait une connotation politique. À l'époque de Jésus, beaucoup s'étaient imaginé qu'un nouveau Messie allait débarquer sous la forme d'un leader à la fois politique, militaire et religieux, et qu'il serait du même calibre que le roi David. Ce sauveur avait donc le statut d'un libérateur national qui allait mettre fin aux souffrances des Juifs opprimés par les Romains. Admettons. Mais avant eux, d'autres personnes avaient vu un peu plus loin que le bout de leur nez. Quelques siècles avant Jésus-Christ, des prophètes déjà avaient déclaré que le Messie, annoncé, serait le sauveur de toute l'humanité. Il allait non seulement délivrer les Juifs du joug étranger, mais aussi sauver les hommes de leurs péchés et de leurs fautes, et même vaincre la mort. L'espoir d'un tel salut, pris dans ce sens, était largement répandu dans le monde hellénistique. Alors, Jésus est arrivé. Il n'avait pas été le seul à proclamer qu'il était le Messie tant attendu. Lui aussi employa les termes de « Fils de Dieu ». Royaume de Dieu, Messie et Salut. Il se place dans la lignée des anciennes prophéties. Il fait son entrée à Jérusalem et se laisse acclamer par la foule comme étant le Sauveur. Il joue sur la manière dont les anciens rois montaient sur le trône en suivant tout un cérémonial d'intronisation. Le peuple, d'une certaine façon aussi, lui donne l'onction. « Les temps sont venus, dit-il. Le royaume des cieux est proche. » Tout ceci est à retenir, mais écoute bien la suite. Jésus se démarqua des autres messies en montrant clairement qu'il n'était en aucune façon un agitateur militaire ou politique. Sa mission était d'une autre ampleur. Il annonçait le salut et le pardon de Dieu à tous les hommes. Ainsi, pouvait-il aller parmi les hommes et dire à ceux qu'il rencontrait « Tes péchés te sont pardonnés ». Accorder la rémission des péchés de cette façon, ça, c'était vraiment révolutionnaire. Il y avait encore pire. Il s'adressait à Dieu en l'appelant « Père »,« Abba ». Dans les milieux juifs de cette époque, on n'avait jamais vu ça. Ce fut rapidement une levée de boucliers autour de lui, surtout parmi les scribes. Soyons clairs, beaucoup de gens à l'époque de Jésus vivaient dans l'attente d'un Messie qui rétablirait le royaume de Dieu par la force de la lance et de l'épée. L'expression même de « royaume de Dieu » est un leitmotiv dans la parole de Jésus, mais avec un sens bien plus large. Jésus déclara que le royaume de Dieu est l'amour de son prochain, la compassion envers les pauvres et les faibles, ainsi que le pardon pour ceux qui se sont écartés du droit chemin. Une vieille expression quasi-politique prend ici un tout autre relief. Le peuple attendait un meneur d'hommes qui allait proclamer le royaume de Dieu. Et voici que Jésus arrive avec sa tunique, ses sandales, et affirme que le royaume de Dieu, c'est une nouvelle alliance, un nouveau pacte qui dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il alla même encore plus loin, Sophie. Nous devons aimer, dit-il, nos ennemis. S'ils nous frappent sur la joue droite, nous ne devons pas répondre. Oh non, nous devons tendre l'autre joue. Et nous ne devons pas pardonner 7 fois, mais 77 fois. La vie de Jésus montre qu'il ne jugeait pas indigne de s'entretenir avec des prostituées, des publicains corrompus et des hommes politiques ennemis du peuple. Il alla même encore plus loin. Il dit qu'un mauvais fils qui a gaspillé tout l'héritage paternel, ou encore un publicain véreux qui a accepté des pots de vin, est juste aux yeux de Dieu s'il se tourne vers lui et implore son pardon. Dieu, dans sa grâce, est généreux. Et il continue en disant que de tels pécheurs sont plus justes à ses yeux et mérite donc davantage son pardon que les pharisiens irréprochables qui se pavanent dans leur bonne conscience. Jésus insista sur le fait qu'aucun homme ne pouvait s'attirer la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas en mesure de nous sauver nous-mêmes. ce que croyaient pourtant beaucoup de Grecs. Quand Jésus expose ses exigences morales dans le sermon sur la montagne, ce n'est pas uniquement pour faire connaître la volonté de Dieu. C'est aussi pour montrer qu'aucun homme n'est juste aux yeux de Dieu. La bonté de Dieu est infinie, mais à condition que nous nous adressions à lui par la prière et implorions son pardon. En ce qui concerne la personne de Jésus et le but de son message, je laisse la parole à ton professeur d'histoire des religions. Ce n'est pas une mince affaire. J'espère qu'il réussira à te montrer quel être exceptionnel Jésus était. D'une manière générale, il a utilisé la langue de son époque et a donné à d'anciens mots un sens beaucoup plus large et complètement différent. Ce n'est pas surprenant qu'il ait fini sur la croix. Son message de paix, plutôt radical, allait tellement à l'encontre des intérêts et des enjeux de pouvoir de la classe dirigeante qu'il fallait se débarrasser de lui. Quand nous avons parlé de Socrate, nous avons pu constater à quel point ce peut être dangereux de faire appel à la raison de l'homme. Avec Jésus, nous voyons que réclamer un amour désintéressé du prochain ainsi qu'un pardon désintéressé est tout aussi audacieux. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons de puissants États être plus qu'embarrassés quand ils sont confrontés à des revendications simples comme la paix, l'amour, la nourriture pour tous et le pardon aux opposants du régime. Tu te souviens combien Platon fut révolté de voir que Socrate dut payer de sa vie le fait d'être l'homme le plus juste d'Athènes. Selon le christianisme, Jésus est le seul homme vraiment juste qui ait vécu. Pourtant, il fut condamné à mort. Il est mort pour les hommes. C'est ce qu'on appelle la « souffrance au nom des hommes » de Jésus. Il était le serviteur qui souffre, celui qui prit sur lui tous les péchés du monde pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Paul. Peu de temps après que Jésus fut crucifié et enterré, des rumeurs disant qu'il était ressuscité commencèrent à circuler. Il manifestait ainsi qu'il n'était pas un homme comme les autres, mais réellement le Fils de Dieu. Nous pouvons dire que l'Église chrétienne commence le matin de Pâques avec les rumeurs de sa résurrection. Paul résume en ces termes : « Et si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre message ne vaut rien et notre foi n'a pas de sens. » Désormais, tous les hommes pouvaient espérer la résurrection de la chair, car c'était pour notre salut que Jésus fut crucifié. Et maintenant, ma chère Sophie, il faut que tu aies bien présent à l'esprit qu'il ne s'agit plus chez les Juifs d'immortalité de l'âme ou d'une quelconque forme de réincarnation. C'était une pensée grecque, c'est-à-dire indo-européenne. Mais selon le christianisme, il n'est rien en l'homme qui soit immortel par lui-même. Et son âme, pas plus qu'autre chose. L'Église croit en la résurrection du corps et à la vie éternelle, mais c'est par le miracle de Dieu que nous sommes sauvés de la mort et de la damnation. Notre mérite personnel n'a rien à voir à l'affaire, ni aucune prédisposition de naissance. Les premiers chrétiens commencèrent à propager la bonne nouvelle sur le salut, grâce à la foi en Jésus-Christ. Par son action de salut, le royaume de Dieu était en train de voir le jour. Le monde entier pouvait être gagné à la cause de Dieu. Le mot « Christ » est une traduction grecque du terme juif « Messie » et signifie donc « celui qui a reçu l'onction ». Peu d'années après la mort de Jésus, le pharisien Paul se convertit au christianisme. Par ses nombreux voyages dans le monde gréco-romain, il donna au christianisme le statut d'une religion mondiale. Les Actes des apôtres nous en relatent les principaux épisodes. Le message et l'instruction de Paul à tous les chrétiens nous sont parvenus grâce aux nombreuses lettres qu'il écrivit aux premières communautés chrétiennes. Il faut se l'imaginer débarquant à Athènes, la capitale de la philosophie, et se dirigeant tout droit vers l'agora. On rapporte qu'il fut frappé de voir la ville remplie d'idoles. il visita la synagogue juive d'Athènes et entra en discussion avec les philosophes épicuriens et stoïciens. Ceux-ci l'entraînèrent en haut du mont Aréopage, et une fois là-haut, lui demandèrent « Peux-tu nous dire quel genre de nouvel enseignement tu es venu nous apporter ? Car nous entendons parler de choses étranges, et nous aimerions bien en savoir plus long. » Tu vois d'ici la scène, Sophie. Un beau jour, un juif arrive sur la place du marché et se met soudain à parler d'un sauveur qui a été crucifié et depuis est ressuscité. Avec la visite de Paul à Athènes, on a déjà une petite idée du conflit qui va opposer la philosophie grecque et la conception du salut dans le christianisme. Mais il est clair que Paul parvint à tenir un discours convaincant aux Athéniens. Du haut de l'Aréopage, sous les colonnes majestueuses de l'Acropole, il leur adressa les propos suivants. Athéniens, à tous égards vous êtes, je le vois, les plus religieux des hommes. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un autel avec l'inscription « Au Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous vie, souffle et toute chose. Si d'un principe unique il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre, s'il a fixé des temps déterminés et les limites de l'habitat des hommes, c'était afin qu'il cherche la divinité, pour l'atteindre si possible, comme à tâtons et la trouver. Aussi bien, n'est-elle pas loin de chacun de nous? C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi, d'ailleurs, l'ont dit certains des vôtres, car nous sommes aussi de sa race. Que si nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, travaillée par l'art et le génie de l'homme. Or voici que, fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice par un homme qu'il y a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. Paul à Athènes, Sophie. Nous sommes en train de voir comment le christianisme s'est infiltré dans le monde gréco-romain. Quelque chose de radicalement différent de la philosophie des épicuriens, des stoïciens ou des néoplatoniciens. Paul trouva néanmoins un point d'ancrage dans cette culture. Il souligne que la quête de Dieu repose au fond de tous les hommes. Rien de bien nouveau pour les Grecs. Mais la différence, c'est que Dieu, proclame Paul, s'est révélé aux hommes et est allé à leur rencontre. Il n'est pas seulement un Dieu philosophe que les hommes peuvent rejoindre par leur raison. Il ne ressemble pas non plus à une image d'or, d'argent ou de pierre. Il y en avait déjà assez comme ça sur l'Acropole ou en bas sur la place publique. Mais Dieu n'habite pas dans les temples érigés par les mains des hommes. Il est un Dieu personnel qui prend place dans l'histoire des hommes pour les sauver. Après son discours sur l'Aréopage, les Actes des Apôtres racontent que certains Athéniens se moquèrent de Paul lorsque celui-ci parla de la résurrection de Jésus. D'autres cependant dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Certains se rangèrent aux côtés de Paul et se convertirent immédiatement au christianisme. Parmi ces personnes, il y avait une femme, Damaris, et il faut retenir son nom. Elle ne fut pas la seule femme à se convertir, loin de là. Paul continua ainsi à prêcher la bonne parole. Aux environs de l'an 80 de notre ère, existaient des minorités chrétiennes dans la plupart des métropoles grecques et romaines, à Athènes, Rome, Alexandrie, Éphèse, Corinthe. Et en l'espace de quelques siècles, le monde hellénistique tout entier fut christianisé. La profession de foi. Paul ne joua pas uniquement un grand rôle dans l'histoire de la chrétienté comme missionnaire. Il exerça une influence à l'intérieur même des diverses communautés chrétiennes, car elles avaient grand besoin d'avoir un guide spirituel. La grande question qui surgit les premiers temps fut de savoir si des non-juifs pouvaient devenir chrétiens sans pratiquer les rites juifs. Un grec devait-il respecter la loi de Moïse? Paul était d'avis que ce n'était pas nécessaire. Le christianisme dépassait largement le cadre d'une secte juive. Il s'adressait à tous les hommes avec un message universel de salut. L'ancienne alliance entre Dieu et Israël était remplacée par la nouvelle alliance que Jésus avait établie entre Dieu et tous les hommes. Mais le christianisme n'était pas la seule religion à cette époque. Nous avons vu comme l'hellénisme était marqué par un brassage de différentes religions. Aussi, l'Église dut-elle faire un petit résumé sur la spécificité du christianisme. Ceci s'imposait d'une part pour se démarquer des autres religions, et d'autre part pour éviter un schisme au sein même de l'Église chrétienne. Ainsi naquirent les premières professions de foi. Une profession de foi résume les principales thèses ou dogmes chrétiens. Un des dogmes essentiels était que Jésus était à la fois Dieu et homme. Il n'était donc pas seulement le Fils de Dieu en vertu de ses actes, il était lui-même Dieu. Mais il était aussi une personne réelle qui avait partagé la condition des hommes et souffert sur la croix. Cela peut sembler contradictoire, mais le message de l'Église était justement de dire que Dieu devint homme. Jésus n'était pas un demi-dieu, mi-humain, mi-divin. Ses croyances en des demi-dieux étaient très répandues dans les religions grecques et hellénistiques. L'Église enseignait que Jésus était Dieu dans sa perfection, homme dans sa perfection. Postscriptum. J'essaie, chère Sophie, de t'expliquer comment tout se tient. L'avènement du christianisme dans le monde gréco-romain se traduit par le choc entre deux cultures, certes, mais c'est aussi un tournant décisif dans notre histoire. Nous sommes en passe de tourner le dos à l'Antiquité. Près de 1000 ans se sont écoulés depuis les premiers philosophes grecs. Nous sommes à l'aube du Moyen-Âge chrétien, qui lui aussi dura 1000 ans. Le poète allemand Goethe dit un jour que « celui qui ne sait pas tirer les leçons de 3000 ans vit au jour le jour. » Et je ne tiens pas à ce que tu fasses partie du lot. Je fais mon possible pour te faire découvrir tes racines historiques. C'est à ce prix seulement que tu seras un être humain, c'est-à-dire que tu seras autre chose qu'un singe nu et que tu cesseras de flotter dans le vide. C'est à ce prix seulement que tu seras un être humain, c'est-à-dire autre chose qu'un singe nu. Sophie resta un long moment sans bouger, les yeux fixés sur le jardin qu'elle apercevait à travers les petits trous dans la haie. Elle commençait à comprendre pourquoi c'était si important que ça de connaître ses racines historiques. En tout cas, cela avait été primordial pour le peuple d'Israël. Elle-même n'était qu'un être né là par hasard. Mais en prenant conscience de ses origines historiques, elle devenait un peu moins le pur fruit du hasard. Elle ne vivrait que quelques années sur cette planète, mais si l'histoire de l'humanité était sa propre histoire, elle était alors, dans une certaine mesure, âgée de milliers d'années. Sophie emporta toutes ses pages et se faufila hors de sa cabane. Elle eut comme envie de sauter de joie et monta vite dans sa chambre.